peu après le départ de sa mère, Charles Ward entreprit d'acheter un bungalow à Pawtuxet. C'était une misérable petite masure de bois avec un garage cimenté, perché sur la falaise, un peu au-dessus de Rhodes, mais pour une raison étrange, le jeune homme n'en voulait pas d'autre. Il harcela les agences immobilières jusqu'à ce que l'une d'entre elles finisse par conclure l'affaire à un prix exorbitant avec un propriétaire qui au départ n'était pas vendeur. Dès que les lieux furent libérés, il emménagea de nuit tout le contenu de son laboratoire ainsi que les livres de la bibliothèque. Il avait chargé un camion aux petites heures obscures et son père se souvient encore des trépignements, des soupirs et des jurons pendant que le matériel était déménagé. Après cela, Charles réintégra ses anciens quartiers au troisième étage et ne remit plus les pieds au grenier. Le jeune homme avait imposé le même secret au bungalow qu'il l'avait fait naguère pour le grenier, à cette différence près qu'il avait à présent deux assistants. Un métis portugais à la mine patibulaire, originaire de South Main Street, qui lui servait de domestique, et un étranger maigre portant de fines lunettes noires et une barbe visiblement teinte, d'une apparence plus raffinée et éduquée qui en faisait davantage un collègue qu'un serviteur. Les voisins essayèrent de lier connaissance avec eux, mais en vain. Gomez, le mulâtre, parlait à peine anglais, et l'homme à la barbe teinte, qui se faisait appeler Dr. Allen, suivait son exemple. Ward, en revanche, tenta de se montrer plus affable, mais ne parvint finalement qu'à exciter la curiosité en tenant des propos incohérents sur ses travaux en chimie. Bientôt des rumeurs circulèrent au sujet des lumières qui brûlaient toute la nuit, et puis quand cela cessa, ce fut à propos des commandes insensées de viande auprès du boucher, des cris étouffés, des incantations, des hurlements qui semblaient provenir du sous-sol de la maison. Tous ces occupants furent bien vite honnis par le voisinage bourgeois, et il n'est guère surprenant qu'on établît un lien entre leur arrivée et la vague de vampirisme qui sévissait depuis peu dans la région de Pawtuxet et dans quelques rues adjacentes d'Edgewood. Ward passait à présent le plus clair de son temps au bungalow, daignant quelquefois dormir chez ses parents, qui le considéraient toujours comme faisant partie de la maison. Il s'absenta à deux reprises pour des voyages d'une semaine dont personne ne sut jamais la destination. Graduellement, il devenait plus pâle et plus maigre, et il avait perdu un peu de son assurance de naguère quand il promettait des révélations sensationnelles et imminentes au docteur Willett. Ce dernier le surprenait souvent chez son père qui, rongé par l'inquiétude et perplexe quant à l'attitude à adopter vis-à-vis d'un fils après tout adulte, n'avait trouvé d'autre traitement que de favoriser autant que possible des discussions avec une personne sensée. Le docteur Willett continue d'affirmer qu'à cette époque, Charles était toujours sain d'esprit, comme le démontrent plusieurs conversations qu'il a eues avec lui. Vers le mois de septembre, l'épidémie de vampirisme diminua, mais en janvier, une autre affaire aussi grave éclata, dans laquelle il manqua de peu être impliqué. Depuis quelque temps, des allées et venues nocturnes de camions avaient attiré une fois de plus l'attention sur le bungalow. Or, une nuit, dans un endroit désert, du côté de Hope Valley, des voleurs prirent d'assaut un camion. Certains y trouvaient de l'alcool de contrebande, mais cette fois ils en furent pour leurs frais, car la cargaison leur réserva un choc qu'ils n'oublièrent pas de sitôt. Les caisses oblongues étaient remplies de choses tellement immondes qu'on en parle encore dans la pègre locale, tellement immondes que les bandits se hâtèrent d'enterrer leur prise. La police finit par avoir vendu l'affaire, et sous promesse d'immunité obtint d'un vagabond qu'il leur montre le lieu de l'attaque. On y retrouva les abominables caisses qui avaient été ensevelies à la hâte. Des télégrammes furent envoyés jusqu'à Washington, mais jamais le public ne fut averti de l'incident. La cargaison était adressée à Charles Ward de Pawtuxet. La police fédérale alla naturellement l'interroger. Les policiers le trouvèrent pâle, inquiet, affublé de ses deux compagnons étranges, mais en obtinrent des explications cohérentes qui l'innocentèrent. Certes, il avait commandé des spécimens anatomiques pour des recherches qu'il menait depuis une dizaine d'années. Il s'était adressé à des spécialistes qui avaient pignon sur rue, mais il ne savait rien de l'identité de ces spécimens et était horrifié par les révélations faites par les inspecteurs. Ces déclarations furent en tout point confirmées par son collègue le docteur Allen, dont curieusement la voix caverneuse semblait plus convaincante que celle trop tendue de Ward. Si bien qu'en fin de compte, les enquêteurs se contentèrent de noter les coordonnées des fournisseurs de New York sans inquiéter davantage Charles Ward. L'enquête new-yorkaise ne déboucha sur rien, les spécimens furent enterrés proprement et le public n'eut jamais vent de l'affaire. Le 9 février 1928, le docteur Willett reçut une lettre de Charles Ward qu'il considère comme extrêmement importante et qui fait l'objet d'un profond désaccord avec le docteur Lehman. Selon ce spécialiste, elle constitue la preuve indiscutable que l'on a affaire à un cas de démentia précoce, ce que le docteur Willett réfute, y voyant quant à lui le message parfaitement raisonnable d'un infortuné jeune homme. Il souligne que l'écriture, quoique montrant des traces évidentes de nervosité, est bien celle de Charles. Le texte en est le suivant. 100 Prospect Street, Providence, Rhode Island, 8 février 1928. Cher docteur Willett, je sens que le temps est venu de vous faire les révélations que vous m'avez si souvent réclamées. Votre patience, votre confiance dans mon équilibre mental sont autant de choses que je ne cesserai de chérir. Maintenant, je suis disposé à parler. Je dois avouer humblement que je n'ai pas atteint les succès que j'escomptais. Au lieu du triomphe, j'ai trouvé la terreur, et mes confidences, loin d'être un cri de victoire, sont un appel au secours afin de me sauver et de sauver le monde d'une abomination au-delà de l'imagination humaine. Vous vous souvenez du raid sur la ferme de Potuxet décrit dans les lettres de Fenner. Tout cela est à refaire à présent, et au plus vite. Des choses au-delà des mots dépendent de nous. La civilisation, les lois de la nature, peut-être même le destin du système solaire, voire de l'univers. J'ai mis à jour des abominations monstrueuses. Je l'ai fait par amour de la science, mais à présent, par amour de la vie et du monde, vous devez m'aider à les renvoyer de force dans les ténèbres. J'ai quitté pour toujours le bungalow de Potuxet. Il faudra exterminer tous ceux qui s'y trouvent encore, les vivants et les morts. Pour ce qui me concerne, je n'y retournerai jamais, et si quelqu'un vous dit que j'y suis revenu, ne le croyez sous aucun prétexte. Je vous raconterai tout quand je vous verrai. Je suis de retour à la maison pour de bon, venez m'y trouver dès que vous aurez 5 ou 6 heures à me consacrer. Il faudra bien tout ce temps-là et je peux vous jurer que jamais tant de médecins n'aura été mieux employés au service de l'humanité. Croyez-moi, ma vie, ma raison sont de peu d'importance dans cette affaire. Je n'ose pas me confier à mon père. Il ne comprendrait pas. Je lui ai simplement parlé du danger qui me guette et il a engagé 4 gardes du corps. Je ne sais ce qu'ils pourront faire contre des forces que même vous ne pouvez imaginer ou reconnaître. Venez vite si vous voulez me trouver en vie pour vous expliquer comment vous pouvez sauver le monde de l'enfer. Venez à toute heure, je ne sortirai pas. Ne me téléphonez pas, il est impossible de dire qui ou quoi pourrait intercepter l'appel. Prions Dieu, quel qu'il soit, que rien n'empêche cette rencontre. Gravement et désespérément, Charles Ward. Postscriptum, abattez le docteur Allen à vue et jetez son corps dans l'acide. Ne le brûlez pas. Le docteur Willett reçut ce billet vers 10h30 et s'organisa pour libérer la journée et même la nuit si nécessaire. Il prévut d'arriver vers 16h, mais ne put rien faire de bon de toute la journée tant il se perdait en conjectures. N'importe qui aurait pris cette lettre pour le délire d'un fou furieux, mais il connaissait trop bien Charles pour y voir fût-ce des extravagances. Quelque chose de subtilement ancien et effrayant flottait dans l'air, et même la référence incohérente au docteur Allen pouvait s'expliquer si l'on s'en rapportait au ragot qui courait sur le bungalow de Potuxet. Willett ne l'avait jamais vu, mais on lui avait parlé de l'aspect de cet homme énigmatique et il se demandait ce que pouvait cacher cette barbe et ses petites lunettes noires. Willett se présenta chez les Ward à 16h et il fut contrarié de constater que Charles ne s'était pas tenu à ses promesses. Les gardes étaient là et lui rapportèrent que le jeune homme avait soudain repris son assurance. Le matin, il avait eu une conversation animée au téléphone et un des détectives précisa qu'il avait entendu des phrases désabusées telles que « Je suis fatigué, je dois me reposer, je ne peux recevoir personne pour l'instant, je suis désolé, je désire tout arrêter » ou encore « Ne faites rien jusqu'à ce que nous ayons trouvé un compromis ». Il avait sans doute repris courage, car il se glissa si discrètement hors de la maison que personne ne le vit partir, ni ne savait où il était allé, jusqu'à ce qu'il revienne sans dire un mot vers 1 heure de l'après-midi. Il monta, et sa frayeur dut reprendre le dessus, car on entendit un cri terrible lorsqu'il pénétra dans son bureau. Cependant, quand le majordome alla s'enquérir de son état, il apparut de nouveau en possession de tous ses moyens, et fit signe au domestique de se retirer d'une façon qui le terrifia. Ensuite, il dut se livrer à dérangement, car on entendit des bruits sourds et des craquements, après quoi il réapparut et s'en alla brusquement. Le docteur Willett demanda s'il avait laissé un message, et on lui répondit que non. Quant au majordome, très perturbé par l'aspect et le comportement de Charles, il demanda s'il y avait quelque espoir de le voir un jour guérir de ses problèmes nerveux. Pendant plus de 2 heures, le docteur Willett attendit Charles dans son bureau, s'attardant sur les vides laissés par les livres manquants dans les rayonnages poussiéreux, et esquissant un sourire nerveux lorsque son regard se posait au-dessus de la cheminée, sur le panneau d'où naguère le portrait de Joseph Curwen le toisait ironiquement. Le jour baissait, et les ombres effrayantes s'amoncelaient avant la nuit, quand M. Ward apparut furieux de ne pas voir son fils à la maison, après tout le mal qu'il s'était donné pour assurer sa sécurité. Il ne savait rien du rendez-vous avec le médecin de famille et promit de l'avertir dès le retour du jeune homme. Au moment de le quitter, M. Ward exprima à nouveau son désarroi et supplia son vieil ami de faire tout ce qui était en son pouvoir pour ramener son fils à la raison. Le docteur Willett fut soulagé de quitter le bureau qu'une force effrayante semblait posséder, comme si le portrait disparu avait laissé derrière lui son héritage maléfique. Il n'avait jamais aimé ce tableau, et bien qu'il eût les nerfs solides, il ressentait à la vue du panneau vide une envie irrépressible de quitter les lieux au plus vite.